Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto et des motards, tous les dimanches de 11h à 12h30. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 novembre et nous recevons notre motard en or, Papate. Comment tu vas bien, Papate?
Eh bien écoute, excellemment. Quand je suis avec vous, ça ne peut qu'aller bien.
Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu.
Entendu, oui.
Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de, non pas de moto, mais de motards, et pas n'importe lesquels, les purs et durs, qui aiment bien quand ça fait mal. Donc je poserai une question, est-ce que ce sont des masos? Nous avons 1h30 pour répondre à la question avec tes invités. Donc je te propose de présenter tes invités aujourd'hui.
Oui, d'accord. Mais en fait, des masos, parce qu'ils ont souvent la réputation, on va parler des courses entre motardes.
Et des hivernales voilà, en plus, attention,
et
pas n'importe lesquelles.
Des hivernales, mais il n'y a pas que les hivernales,
non,
parce que les constantes, c'est tout au long de l'année.
Ah, c'est parce que tes invités sont venus à moto et là, il fait moins quelque chose, il fait froid, c'est verglacé.
Ce sont des vrais motards.
Des vrais, je ne sais pas, en tout cas des vrais masos, peut-être. C'est la question que je pose.
Mais en tous les cas, ils vont nous aider à nous enrichir dans nos connaissances sur justement les concentres, parce que c'est une des facettes mythiques de l'histoire des motards à travers les décennies. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Donc on vous invite à un petit tour d'horizon avec Nicolas qui est donc présent avec nous.
Bonjour Papate.
Et donc Nicolas, il nous propose de parler bien sûr de ce qui se fait aujourd'hui, mais aussi d'avoir un petit coup d'œil dans le rétro pour nous parler de l'origine des concentres.
Écoute, je peux. Bonjour à vous tous, bonjour à toute l'équipe, et puis voilà.
On va faire un petit tour de table avant.
Ouais,
hein,
ouais, d'accord.
Donc tu vas nous parler de l'origine des concentres après, quoi, c'est ça?
Il n'y a pas de problème.
Et Alain, et tu as aussi avec nous, tu as répondu à notre invitation, ce qui nous fait super plaisir. Et toi, tout au long de l'année?
Oui, tout au long de l'année, je fais des rassemblements moto, mais je suis un petit encore.
Ouais. Alors, j'ai vu qu'à sa moto, il y avait 3 roues, c'est normal?
Ouais, il paraît que ça s'appelle un saril.
Ah d'accord, d'accord. Donc ça marche quand même, ouais. C'est accepté,
ouais,
les 3 roues.
On appelle. Ça marche aussi les 3 roues.
T'es trop modeste là.
Yanis risque de se vexer parce que Yanis est aussi aujourd'hui avec nous et un grand spécialiste du side aussi.
Bah écoute, non, je me vexe pas du tout. Hein, c'est chacun son tour. Ouais, j'ai été pendant 30 ans pilote de sidecar. Ouais. Là, bon, en ce moment, je me suis rabattu sur le 2 roues seulement. Hein, j'ai toujours eu. Et je voyage pas mal en bécane aussi, ouais. Je fais quelques concentres, mais moins que mes compères, là.
Et puis, il y a également Yves, notre motard lecteur.
Avec oui. Une invite au voyage.
Exactement. Je crois que j'ai trouvé la pépite que je cherchais depuis 11 ans.
C'est quoi, le livre?
Alors, le livre, c'est le voyage des frères Midvar, qui raconte l'histoire de 2 frères iraniens dans les années 50, et qui sont partis en moto à la rencontre des peuples premiers, avec une démarche qui était tout à fait, je dirais, innocente presque, candide, mais des gens très débrouillards et très, très préparés d'ailleurs aussi, et qui ont fait un tour du monde donc dans les années 50 et qui sont partis à la rencontre des peuples premiers, et en matchless 500.
Ah ouais.
Moto anglaise, enfin une des dernières motos anglaises vraiment hyper efficace. La moto anglaise.
La plus fiable.
La plus fiable avec.
Faut pas dire comment. T'imagines comment ils étaient les autres alors?
Et c'est-à-dire que quand tu vas autour du monde en 1954, ouais. L'essence elle est pas pareille partout. Il faut avoir des motos solides. Ouais. Il faut avoir des motos qui puissent se réparer facilement.
Ouais, complètement.
Aussi. Et puis bon, l'Empire anglais était encore là, hein, donc il y avait quand même un peu des points de contact partout. Mais on en parlera tout à l'heure. Et peut-être que j'aimerais faire 2 émissions quand même sur ce bouquin, parce que je pense qu'une seule, c'est pas assez.
on t'invite à venir quand tu veux, pas de problème. On parlera aussi du frère de Jacques Brel, Pierre
oui.
Brel,
oui,
qui lui aussi était non seulement un pilote reconnu.
Pour rejoindre
mais
Yves.
Mais en plus, un voyageur.
Un contemporain dans les années 50 qui a aussi.
Il a fait 30 000 km en sidecar en 1950. T'imagines?
Il avait une 250 push.
Ah ouais, c'est après, ça, il
ouais.
Faut tout dire.
Mais une sacrée histoire, un sacré motard.
Ah ouais. Et donc on va terminer ce tour de table en citant à la technique et à la programmation musicale, Monsieur Laurent.
Thank you.
Ça, c'est de la musique pour se réveiller le dimanche matin, hein, papate, sur Radio Campus, Kikinkou, le magazine de la moto et des motards. Et aujourd'hui, nous parlons des motards qui aiment se concentrer, parce que le motard est un animal grégaire, c'est ça? Il vit en groupe, en meute.
Oui, je pense que le motard, tel qu'on se le représente, c'est quelqu'un de très humain, d'aventureux, qui aime le contact et qui aime retrouver les gens qui partagent la même passion.
C'est père hier, c'est ça.
Oui, et donc au travers de ce qu'on va entendre sur les concentres, je pense que c'est aussi le partage de quelque chose de profondément chaleureux et... Donc on a une idée reçue qui est que les concentres ont démarré surtout dans les années 70. Or, les rassemblements motards, c'est Nico qui va pouvoir mieux en parler, ont démarré bien plus tôt.
En fait, dans les années 70, fin 70, une époque qu'on n'a pas connue parce qu'on est trop jeune, il y a eu un renouveau de la moto. Donc forcément, avec les motos fiables, qui tombaient plus en panne et tout ça. Mais avant cette période-là, il y a eu des motocyclistes célèbres. Robert Sexé, qui a parcouru le monde entier entre deux guerres, et dont, c'est pas Hergé, c'est machin, qui a dessiné Tintin et Milou.
C'est Hergé.
Donc Hergé s'est inspiré de Robert Sexé pour Tintin. Ensuite... après le renouveau de la moto, dans chaque pays il y avait des concentres. Il y avait les Chamois, Val d'Isère, les Dragons Rally chez les Anglais, les Belges avaient les Lions, les Luxembourgeois avaient le Rambo Rally, les Hollandais avaient Zwentwoord, l'Étoile de Mer, et les Allemands avaient les Elf. Et puis il y a eu aussi des motards célèbres. Donc toujours avant le renouveau, c'est-à-dire avant 70, une époque que nous n'avions pas connue, qui me fait bien rêver d'ailleurs. Et il y a eu Yves Standard, des amis de la moto, qui ont écumé les routes et qui faisaient des rallyes pour la FIM. Et puis voilà quoi. Ensuite, une autre époque est arrivée, toujours avec aussi ces gens, donc je viens de citer les noms.
Oui, ce qu'on ne... Moi, je ne le soupçonnais pas avant de pouvoir lire davantage sur le sujet. Mais c'est vrai que les fédérations avaient aussi une importance au niveau de l'organisation possible. Par exemple, qu'il existe des rallyes des concentres et que ça puisse avoir été des épreuves comme avec, je dirais, un classement. C'est à un moment donné de l'histoire aussi de la moto. Par exemple, en Belgique, ça a amené des gens à parcourir énormément de
kilomètres. En Belgique, tu avais le championnat des concentres. En fait, les gens, ils roulaient, ils faisaient des concentres toute l'année. Ils pointaient à un championnat de concentration. Et puis, à la fin de l'année, tu avais une moto à gagner.
Voilà,
les gars, ils roulaient. Mais après aussi, la polémique, c'est que le gars, il faisait trois concentres sur le week-end, il pointait, il repartait, il en faisait une autre.
Et c'était pas le même esprit.
C'était pas un esprit vraiment rassembleur, quoi.
Alors tu parles du championnat de tourisme belge, mais existait exactement la même chose en France, hein, organisé par la FFM. Hein, il suffisait d'aller faire pointer son carnet et celui qui gagnait, celui qui avait à la fin de l'année cumulé le plus de kilomètres.
Et ça existait à peu près
je crois que ça existait encore il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'à l'aube des années 2000 au moins, hein, le championnat de France de tourisme.
Voilà. Sinon, il y a encore des
ça existe peut-être.
Ouais, une épreuve où tu dois parcourir un certain nombre de kilomètres et tu dois pointer à certains endroits et tu as un diplôme parce que tu as fait tant de bornes en peu de temps. Quoi.
Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, hein, le côté grégaire des motards. Il y a un paradoxe finalement parce que nous autres motards, on fait partie d'une minorité, donc on aime se singulariser. Voilà, par rapport au commun des mortels, on va dire. Et en même temps, il y a ce réflexe de se réunir pour partager notre passion. Voilà, il y a vraiment une ambivalence dans ce désir de singularité et malgré tout de se réunir, de partager cette solidarité.
Et puis dans les concentres anciennes, ce qui primait surtout avant, c'était l'individu. Aujourd'hui, on va dire que ce serait plus la machine. Avant, c'était plus le fait de se retrouver, l'individu, ce qu'il vivait, ce qu'il avait vécu, ce qu'il représentait. Donc on est un peu dans un vieux monde, on va dire, où il y avait des gens qui faisaient des concentres en mobilette, comme Guéguette des Samara. Il avait un Solex avec un sidecar et il écumait les routes d'Europe. Donc c'était surtout l'individu qui primait, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on est plus... dans un effet de mode. Enfin, je parle pas des concentres privés que Alain il fait et tout ça. Donc.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi plusieurs périodes qui correspondent aussi à un changement dans le monde de la moto, par exemple, avant les années 70? On disait de 50 à 70, il y avait quand même beaucoup moins de motards et acheter une moto, c'était quand même pas évident. Après, dans les années 70, il y a eu les motos japonaises et donc un marché qui s'est vraiment fort développé, il s'est un peu démocratisé. Et à l'heure actuelle, la moto, je pense, elle évolue aussi beaucoup dans son image et sa façon d'être utilisée parce que ça devient beaucoup plus partagé.
Il y a eu les gens qui allaient au travail en moto, tout ça, avec des 125 populaires. Et après, il y a eu cette fameuse 4 chevaux qui est arrivée et qui a tué la moto.
Ouais,
du coup, les mecs, ils ont ferraillé leur moto.
Ouais.
Après, il y a eu la 4 pattes qui est arrivée. Cette moto, elle marchait bien. Elle ne tombait pas en panne. Après, il y avait d'autres machines aussi qui marchaient bien. Et puis, il y a eu l'après-mai 68, un vent de liberté. Et voilà. Donc, tout ça, ça a enchaîné des concentrations moto.
Alors moi je voudrais justement intervenir sur l'origine des concentrations. Tu parlais des éléphants tout à l'heure, qui a été probablement, en tout cas j'en ai pas trouvé d'autres, hein, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus, la première concentration hivernale. Et la première a eu lieu en 1954. C'était à l'initiative de Ernst Leverkurz,
c'est ça.
Donc un journaliste allemand. Qui voulait prouver qu'on pouvait se servir.
1957.
Alors on n'a pas tout à fait la même date. Je pense que la première était peut-être un peu plus tôt, même dans son jardin, qui a réuni une petite douzaine de sidecars. Et il voulait tout simplement prouver qu'on pouvait, face à la voiture populaire naissante, hein, d'après-guerre, on pouvait se servir d'une motocyclette toute l'année, quelles que soient les conditions climatiques. Voilà.
Et surtout dans la neige.
Et il fallait avoir une
zone
KS 600.
Voilà, exactement.
Et cassons le mythe. Non, ce ne sont pas des anciens de
Luftwaffe.
Cassons le mythe.
Encore que beaucoup de motos qui ont été laissées sur place ont pu servir après.
Parce qu'il y a 20 ans, en 2004, il y a un gars, un journal dont je tairai le nom, s'est sorti un reportage sur les éléphants en parlant justement de soi-disant nostalgique. Et il s'est excusé après avoir vraiment... s'être vraiment renseigné sur cette concentration. Là, après, il s'est excusé. Parce que, bon, il avait été un peu loin dans ses propos. Et voilà. Donc, c'est pas un rassemblement de nostalgiques. C'est un rassemblement hivernal de motos. Historique, comme les autres. D'ailleurs, il y a deux élèves.
Si je puis, il y a deux élèves.
Parce que la fédération, voilà, il y a eu deux organisations à un moment donné, comme dans, souvent dans les gros clubs, des grosses structures d'organisation, il y a eu des disputes, il y en a trois des élèves maintenant. Alors, moi, il y en a trois.
Il y a trois éléphants. Il y a un club dissident qu'ils organisent à 20 km du Nürburgring. Un rassemblement en marge des éléphants du numbering parce que ils trouvent que le prix de l'entrée est trop cher. Du coup, ils organisent le même week-end. Tu peux y aller, tu vas au numbering, tu fais 20 km. Okay. Ils sont dans une salle, tu bois une bière à 1 euro.
Okay. Ah bah c'est une information
que vous avez. Ça fait quelques années que ça existe.
Donc il y a un club qui organise les vieux éléphants, dit Alten Elefantentreffen. Au Nürburgring, hein, c'est à 350 bornes d'ici. Alors, il y a 3-4 heures de route, c'est pas très compliqué. Dans le massif de l'Eifel. Et puis il y a Zola, hein, Turnhandbang, dans la forêt bavaroise, là à l'est de Munich, sur la frontière belge. Sur la frontière tchèque.
C'est un peu plus loin.
Donc il y a la fédération des. Ouais, il y a 1000 km. Hein.
Il fait un peu plus froid.
Il fait encore plus froid. Voilà. Le but, c'était quand même de trouver les endroits les plus froids possibles. Hein, pour que ce soit sélectif, les éléphants, il y a eu plusieurs sites. Hein. Il y a eu le site du côté de Salzbourg, en Autriche. Il y a Zola, Turnhandbang, Zola. Il y a le Nürburgring. Il y a eu 5 ou 6 sites différents.
Et puis, il ne faut pas oublier que les éléphants, c'est un hommage aux motards morts, au départ. Au Nürburgring, le soir, il y a une messe pour nos copains qui sont disparus. Donc, si tu as perdu un copain dans l'année, tu peux... au responsable, donner son nom et les citer à la cérémonie. Au départ, c'était surtout ça, un hommage aux motards morts.
Et je peux poser une question un peu con. Pourquoi ils ont appelé ça des éléphants?
C'est le surnom qu'on a donné aux sidecars. Ouais.
D'accord.
Sidecar qui les
Zundafes, parce qu'il y a un côté pachydermique dans le.
C'est le surnom qu'on a donné à ces motos.
En fait, pour revenir à ce que tu as dit au départ, là, on est en train de parler des concentres qu'on aurait dit avant pour les purs et durs, parce qu'il fallait avoir un côté maso pour aller rouler dans le froid et affronter des conditions climatiques pas possibles. Et puis, surtout, les conditions de route avec. les neiges, etc. Mais là, pour recentrer un petit peu sur le qu'est-ce qui pousse les gens, les motards, pardon, à prendre leur moto et à aller rouler
dans le froid
ou risquer de se foutre.
Non, mais là, en hiver, c'est plus rigolo encore. De se foutre la tronche par terre, d'abîmer la moto, qu'est-ce qui les anime?
Les conditions climatiques difficiles, c'est recherché aussi dans les Pyrénées.
Dire, quand tu fais une hivernale, quand tu roules en moto, que tu fais une hivernale, celui que tu croises de l'autre côté, c'est ton frère. Tu vois, l'été, bon, après, il y a des concentrations l'été, j'espère qu'on va en parler. Mais quand tu croises quelqu'un de l'autre côté, quand il fait froid, quand tu traverses la France et qu'il fait froid, enfin, moi, c'est l'impression que je ressens. Quand tu croises un mec qui fait signe ou qui va au même endroit que toi, c'est ton frère.
C'est l'adversité.
Tu liras les plus belles amitiés que tu vas créer et les rencontres, les belles rencontres que tu les feras toujours l'hiver dans les hivernales.
C'est très sélectif. Hein. Puis c'est aussi une façon de se prouver qu'on est capable de le faire. Ouais. Aussi.
On va passer un petit morceau de musique et on reviendra sur ce débat passionnant.
C'est qu'on y va.
Just like that, I do declare.
Vous êtes bien sur Radio Campus, Kick un coup, on a un débat passionné là, ouais. Passionnant même, sur ouais. Les consentes motos d'hier et d'aujourd'hui, papa.
Ouais, et puis je vais imiter Yves qui tout à l'heure disait que pour son bouquin mériterait plusieurs émissions. Là, de la même manière, on est frustré parce qu'on aurait énormément de choses à dire et puis on est pris par le temps. Et voilà.
On a donc quand on même a une heure et demie, hein, ouais, ça va.
Oui, mais bon, on continue que sur les consentes. Yves, ça sera plusieurs émissions une autre fois.
Non.
Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on est retombé tout de suite dans les. Pour reprendre l'historique, on est tombé dans les grandes consentes, là, à vouloir des détails et on pourra parler de chacune. Actuellement, Nico, juste à l'instant, tu disais que des consentes, on pouvait en faire
toute l'année,
dans toutes les régions.
On peut faire des consentes toute l'année, oui. Je pense qu'il y a surtout certaines consentes qui ne fonctionnent pas avec les réseaux sociaux parce que les organisateurs, ils ont envie d'être se retrouver entre eux. Ça ne les empêche pas d'avoir du monde. Et puis après, tout ne marche pas avec les réseaux sociaux, quoi. Mais après, quand on rentre dans le milieu, il y a moyen de faire des consentes. Mais je pense que tu devrais interviewer
Alain. Oui, bien sûr.
Alain.
C'est ce que j'allais relayer à Alain. Parce que justement, Alain, tu disais que... En l'occurrence, il y a une consente à laquelle tu as pu participer récemment. C'était la première fois.
Non, c'est une consente où je vais participer.
Ah, où tu vas participer
la semaine
toi
prochaine.
Toi qui es habitué à faire beaucoup de consentes.
Moi, en fait, je faisais déjà pas mal de consentes. Et j'ai rencontré quelqu'un qui en fait plus que moi.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'ai une copine en Bretagne...
Elle en fait combien ?
Elle fait 56 rassemblements par an.
Donc ça fait plus qu'un par week-end, c'est ça ?
Oui.
Ouais, ça fait beaucoup. Mais, quand même.
Ouais. Chez elle, c'est un boulot à plein temps.
C'est une mordue de chez mordue, passionnée.
Ouais, elle est entre 40 et 50 000 km par an.
Ouais. En deux roues ou en trois roues ?
Les deux.
Les deux, ah ouais, d'accord. Ok, donc elle prend le 3 roues quand les conditions météo sont un peu difficiles.
Non, en fait, elle préfère le 3 roues, elle est plus à l'aise en 3 roues.
Et puis on peut prendre la moitié de la maison.
Disons que financièrement, le 2 roues est intéressant.
D'accord.
Parce qu'il consomme moitié moins.
Ok, ok. Mais du coup, tu peux charger davantage ton side. Et donc, tu peux prendre aussi un certain nombre de trucs de la maison que tu évites de consommer sur la route, par exemple.
Ouais, enfin.
Non.
Et ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'elle fait. Elle participe au concentre.
Ouais, ça fait très longtemps.
Et donc elle est connue partout.
Elle est connue, ouais, elle est assez connue.
Et elle a ses entrées.
Ouais.
Et donc là, tu as pu profiter. Donc tu as en perspective une concentre où c'est difficile.
Ouais, c'est très difficile parce que même en fait, j'ai rencontré la personne avec ma copine. Pendant l'été, j'ai envoyé mon chèque d'inscription et j'ai reçu un message comme quoi elle s'excusait, mais que j'étais pas sur la liste et que ça se passait pas comme ça. Donc j'ai dû envoyer un message avec la photo de moi et de mon ami.
De la moto là, aussi, non ? La photo de la moto aussi, non ?
Non, non. Là, elle a percuté que c'était moi.
D'accord.
Et elle a dit elle OK, ça, c'est bon, ça marche.
Elle t'avait pas reconnu, donc, en fait, c'est ça ?
Ben, j'avais juste mis mon prénom, donc voilà. Et c'est donc il existe des concentres très privés
où il faut être parrainé, en fait, c'est ça.
Il faut être parrainé et on rentre pas comme ça comme on veut, quoi.
Qu'est-ce que tu allais dire ?
Très diffusés.
Bah je disais que y a des concentres, on peut en faire toute l'année, mais tous les week-ends. Oui, on est même parfois amené à faire le choix entre les concentres.
Hein. Ouais, tellement il y en a.
Même
ouais.
Oui, même dans la région, hein, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Moi, ce qui m'impressionne quand je vais dans des concentres comme ça, c'est qu'il y a des gars et des nanas, quoi, qui ont des blousons. Vous savez, la tradition,
les médailles.
C'est les médailles ou c'est les patchs hein, des motoclubs de la concentre. Et il y a des gens qui ont des centaines sur leur veste, leur surveste, qui sont même obligés de rajouter des morceaux de jean à leur surveste. On a à l'intérieur, il y en a à l'extérieur. C'est hallucinant. Hein.
Ouais, mais
j'ai rencontré Kiki. On a rencontré Kiki, là, une concentre là, cet été. Il avait fait rien qu'avec sa moto. Et c'était pas sa première moto. Sa moto elle avait 1 300 000 km. Il avait des tonnes de patchs sur lui. C'est impressionnant.
Ah, mais Kiki, il fait 6 mois par an. Il fait tous les pays nordiques pendant 6 mois.
Plus,
il est parti.
En plus.
Il roule avec sa moto pendant 6 mois et il rentre pas chez lui. Il n'y a pas de téléphone portable en plus. Il part et il dit à sa femme, je reviens dans 6 mois.
Voilà, et il nous racontait.
Elle est sympa,
que...
la femme, hein, quand même.
Il nous racontait que sa femme savait où il était quand elle recevait
les tickets de carte bleue.
Les tickets de carte bleue.
Voilà. C'est un peu impressionnant.
Les relevés bancaires.
Et pourquoi je parlais de médailles ? Parce que ça fait un peu, tu sais, comme le soldat qui a combattu, qui a une victoire, et donc qui a besoin de montrer, d'afficher, en fait, sa médaille comme une récompense.
Moi, je pense plutôt que c'est un beau souvenir quand t'as une médaille.
Ouais.
Moi, j'ai des médailles des années 80 et je trouve que c'est un beau souvenir. C'est une tranche de vie, c'est ce que tu aimes et voilà. Quoi.
C'est aussi un message de reconnaissance. Je dis, ah, t'étais au Samara.
Moi, j'ai une médaille.
On s'affiche.
J'ai une médaille des Jet 86, une concentration à Nivelles. Et j'ai retrouvé en 2020 l'organisateur. Et je lui dis, tu sais, j'ai toujours la médaille de 86. Il me dit, c'est vrai. Ben, je dis, ouais, je me souviens comme si c'était hier. Il y a plein de choses que j'ai oubliées, sauf ça. Et voilà, ça fait partie de la vie. Quoi. C'est des souvenirs. On les regarde et puis on se remémore nos bons moments.
De toute façon, il y en a qui affichent sur la veste. Il y a aussi des collectionneurs de patchs.
Ouais, aussi.
Moi, j'ai un copain qui fait pas mal de concentre aussi. Moins que moi, mais quand même pas mal. Et lui, quand il va à une concentre, c'est pour récupérer le patch et l'afficher dans son garage.
D'accord.
Mais il l'a pas sur lui.
D'accord.
En concentre, il l'a pas sur lui. C'est vraiment une
il s'est fait
collection de pages.
Ouais, d'accord.
Okay. Ça fait un but pour rouler.
Ouais, ça fait un but
tu
pour
peux faire
rouler.
Une cartographie.
Exactement.
Une façon de te repérer aussi dans l'Europe.
Mais tout ça un peu fou quand même.
Je n'osais pas le dire.
Non, il y a beaucoup de rêves aussi derrière
ouais,
tout ça.
C'est des rêves, c'est des souvenirs. Moi, c'est l'individu qui prime. On rencontre des gens intéressants qu'on n'a peut-être pas l'occasion de rencontrer dans notre travail. Et on parle, on refait le monde, et puis on boit un coup, et puis voilà, et le temps passe, et c'est super.
Quand tu parles de rêve, il n'y a pas un petit côté aussi adolescent, un peu, non ?
Oh bah écoute, si c'est, je pense que ça, c'est le cas, et c'est une force terrible de pouvoir rester soi-même à travers les années qui passent, avec, je dirais, la même vitalité
et fraîcheur.
Fraîcheur, ouais, et puis désir d'apprendre, de découvrir et de découvrir l'autre aussi, c'est ça qui est formidable.
Ouais, moi je pense même que de faire de la moto, même à nos âges, on a tous la soixantaine ou à peu près, c'est une façon de rester adolescent quelque part, de faire
ouais,
de la moto.
De rester jeune, ouais.
Chercher des sensations, ouais. Se retrouver entre copains, entre potes, partager. C'est une façon de rester jeune. Hein.
Ouais, complètement.
C'est un but aussi. C'est un but. Perso, il fallait que je passe le cap où mon grand-père s'était arrêté de faire de la moto parce qu'il était décédé. Donc maintenant, je vois, j'ai un record. Quoi.
Heureusement qu'il n'est pas mort jeune.
Bah, il est mort à 65 ans, c'est quand même maintenant, tu oui, vois. Maintenant. C'était bon, il était en. Bon, voilà, c'est tout. Mais voilà, trois générations de motos. Et puis, oui, je reviens sur les ferraillages des motos. Oui, c'est vrai que la moto, à cette époque-là, c'était le moyen de transport des ouvriers et des ouvriers qui faisaient les déplacements. Hein, ils partaient en moto là-bas, travailler dans la Sarre parce que la moto c'était le moyen de se déplacer quoi. Et c'était ce qui était à leur portée. Le voyage avec maman, c'était en moto.
La belle époque. On va passer un petit morceau de musique et on revient au concentre tout de suite. On parle moto et motard, mais il y a aussi de la bonne musique hein, sur Radio Campus avec Kikinkou, T'es tout pâle, Papate. Donc, on parlait Concentre et tu as trouvé un site extraordinaire qui s'appelle
Concentre d'hier. Mais alors, préparer une émission, c'est aller d'un centre d'intérêt à un autre. Et je dois remercier totalement Nico de m'avoir parlé d'un motard que je ne connaissais pas du tout, même si le nom de famille
célèbre, illustre même,
m'était familier. Et en cherchant à avoir des informations le concernant, je suis tombée sur le site Concentre d'hier. Ouais. Et j'ai adoré.
C'est quelqu'un qui avait fait un appel pour récupérer les infos, c'est ça? Il voulait regrouper les infos sur un site.
C'est un site que je trouve vraiment très très chouette parce que effectivement le site invite à partager aussi si vous faites des concentres, vos souvenirs et anecdotes pour faire revivre hein, ouais. par rapport au passé, mais aussi continuer à faire vivre parce ouais. qu'il y a le site et il y a deux Facebook.
Ouais, ouais.
Ce que Antoine hein, qui signe beaucoup, alors je n'ai pas eu trop de renseignements sur la personne qui s'occupe de ce site, mais en l'occurrence il y a beaucoup d'articles qui sont signés de ce prénom et qui invitent donc à faire vivre l'esprit authentique des rassemblements moto, aussi bien d'antan que actuellement ce qui peut vivre ouais. aujourd'hui en les reconnaissant comme véritables escapades touristiques et humaines. Et effectivement, on a les deux plans, hein, les déplacements et puis aussi la rencontre avec l'autre. Donc, en fait, c'est depuis début des années 2000 hein, que ce site est l'esprit dorsal de cette initiative d'avoir cette mémoire concernant les concentres. Donc effectivement, il y a des portraits d'anciens moutards, mais il y a aussi d'autres choses. On peut aller voyager sur ce site et Jacques Robert Sexé, je connaissais pas du tout. Ça m'a accroché parce que il a réalisé en 1926 le premier tour du monde à moto avec un coéquipier et donc en précisant le type de moto. Effectivement, il aurait donné l'idée à Hergé de ce concept du personnage de Tintin parce que Tintin. C'était un chroniqueur et photographe.
Et puis qui parlait très bien français, ouais. Un vieux français.
Et c'est un personnage parce que c'est cité que, par exemple, en 72, il s'était rendu aux éléphants avec une 125 et déjà, il était déjà âgé, mais en fait, il avait proclamé que quand il serait âgé, il prendrait un galetto de chez Moto Guzzi et que ça lui conviendrait très, très, très bien. Donc, c'est très savoureux parce qu'il y a aussi donc, ces personnages de tout un chacun qui, avec leur surnom, surtout pour les motards entre les années 70 et 90. Et donc, il y a ces deux plans, avant 90 et après, qui est proposé aussi. Et donc, j'avais lu un très beau portrait de Pierre Brel.
Le frère de Jacques.
Et j'ai eu donc un petit concentré de son parcours motocycliste et avant de pouvoir justement mieux découvrir l'homme à travers le livre que tu m'avais recommandé et que je vais préciser juste après. Mais Pierre Brel, effectivement, c'est un motard belge qui a eu un parcours extraordinaire. Et donc, moi, je dans le Panthéon, je dirais, un des grands motards, eh ben, je ne connaissais pas. Et c'est quelqu'un qui est vraiment, dans les années 50, il est parti au Congo. Bon, quand on sait l'histoire de la Belgique, le Congo. Mais il faut s'imaginer les conditions... Et comment il a pu passer, effectivement, il a énormément voyagé. parce qu'ils ont découvert, alors c'était aussi avec sa femme, c'est aussi replacer dans l'histoire, mais puis avec un couple d'amis dont le...
Il a énormément roulé en
il
moto.
Il a énormément roulé. Et
il a fait des concentres.
Voilà, et c'est pour ça qu'il avait sa place dans ces fameuses concentres d'hier, et puis aussi à découvrir donc Pierre Brel dans une biographie qui a été écrite par Thierry de Noël. Et donc c'est un bouquin qu'on trouve que d'occasion, mais bon, je vais pas vous dire sur quoi aller pour le trouver, mais c'est pas trop compliqué quand même à faire, et puis à prix totalement accessible suivant l'état du livre, mais on peut en trouver des vraiment très corrects. Et donc ce livre, même s'il parle beaucoup de Jacques, du frère cadet de Pierre Brel, ils avaient 5 ans d'écart, et retrace toute l'histoire de Pierre, mais avec ses souvenirs aussi de Jacques.
On va dire qu'il y en a un qui voyageait en bateau et il y en avait un qui voyageait à moto.
Et donc... la moto a pris une place énorme. En fin de compte, il y a plein. Je pense aussi c'est très touchant parce que ça plonge dans un univers familial, mais aussi dans une histoire, et une histoire, je dirais, du Grand Nord. Hein, et donc avec la proximité qu'on a nous de la Belgique, et puis deux garçons d'une famille ont eu des parcours très riches, un très très médiatisé, mais Pierre Brel a aussi été médiatisé de par les exploits qu'il a pu
faire. Petite anecdote qui vient pas de moi, et je voudrais surtout remercier mes vieux copains motocyclistes qui vont sûrement nous écouter et qui m'ont donné beaucoup d'infos. Pierre Brel, quand il arrivait dans une concentre, il pointait, il donnait son nom, et les gars, il disait bah, comme le chanteur, oui, c'est mon frère. Ça fait toujours bizarre, quoi. Surtout à l'époque où c'était la vedette, quoi.
Bon, il a quand même été champion de Belgique en endurance, hein, et deux fois en trial, hein, quand même.
Il a eu un super palmarès, il a fait énormément de kilomètres.
Un million et demi, ouais.
Il avait un rapport même aux machines qui était, je dirais, c'est touchant, la façon dont il a évolué. Et son parcours, effectivement, il est passé. Alors, il a fait ces fameuses épreuves que moi, je ne connaissais pas
rouler
bien.
Pour le championnat belge.
Voilà,
de concentration.
Il a été responsable de la section tourisme à la Fédération belge.
La FMB.
Il était président de...
La RAMCA d'Anderlecht.
Donc effectivement, totalisé plus d'1,250,000 kilomètres sur deux roues, soit près de 30 fois le tour du globe, c'est impressionnant. Il a énormément roulé, énormément donné au monde de la moto, et il est resté aussi très fidèle, même si l'éloignement se faisait de par la vie par rapport à son frère Jacques. Il est resté, on se sent très humain et très proche des gens. Et donc, il a pu témoigner que tous ces périples qu'il a pu faire et ses engagements, pour lui, ça a toujours été une expérience unique. Donc, on est là, une chose dont on se souvient, une découverte de l'autre, mais aussi pour rejoindre aussi ce que tu disais, quand tu disais Mazo, mais aussi ce que tout le monde disait, c'est-à-dire se découvrir soi-même face aux épreuves et aux difficultés rencontrées. Et qui ça permet finalement de rester peut-être toujours en connexion avec soi-même. Moi, je dirais peut-être pas chercher à être jeune, mais peut-être rester soi-même. Et puis se dire que si l'enveloppe vieillit sur le fond, même si on apprend dans un certain sens, mais finalement on reste toujours un peu avec.
C'est tellement bien, c'est que ce qui reste de tout ça, c'est un livre. C'est qu'on apprend ce que tu nous racontes. que bon, dans cette époque, sans réseaux sociaux et tout ça, avoir un livre, en parler, se remémorer ce qu'eux ont vécu, c'est déjà magique. Donc,
Et pour reprendre ses mots, lui disait que les voyages sont une véritable école de vie. Et donc si les concentres donnent des objectifs aussi de voyage et des objectifs parfois très accessibles, ne serait-ce qu'en kilométrage, en coût, rien que dans l'hébergement, je veux dire, la participation souvent elle est très très faible. Et donc les voyages sont une véritable école de vie et ils nous offrent des souvenirs inoubliables. Et ça, je pense que toute personne autour de cette table qui a pu participer, même à tout petit niveau, à des déplacements comme ça et aussi à des rencontres avec l'autre et la découverte de ces temps-là, ça reste des souvenirs inoubliables. Bref, c'est un livre qui peut intéresser à différents niveaux, ne serait-ce que par rapport, je dirais, aussi à l'histoire, parce que la façon dont le mode de vie dans les années 30, 50 est évoqué, je dirais, c'est même pas, c'est juste évoqué, ça donne beaucoup à penser et à réfléchir.
Rappelle-nous le titre du livre.
Donc, c'est Pierre Brel, le frère.
De quel auteur?
Alors, j'ai donné. Alors. Le frère de Jacques, Pierre Brel, le frère de Jacques, Thierry de Noël, l'auteur, et c'est aux éditions Corse 16.
Ok, on a un petit morceau de musique.
Oui, et puis si on vieillit, c'est super parce que c'est écrit tout en gros.
Excellent, excellent. Vous êtes bien toujours sur Radio Campus Kikinkou et avec notre motarde en or, on va encore parler culture.
Ah oui, mais si je vais laisser la parole
à notre motard lecteur, voilà. Yves.
Oui, bah bonjour à tous. Et bah, je reste dans le thème, hein, le voyage. Et c'est un peu la responsable de notre ligne éditoriale, je dirais. C'est Papate qui fait ça. Et donc, je vais vous parler d'un bouquin. Je cherchais depuis longtemps des bouquins qui parlaient de voyages, mais de gens qui avaient fait des voyages avant, un peu explorateurs, un peu ben exactement, un peu comme on a commencé à discuter ici, les précurseurs, quoi. Et comme ça, par hasard, en entrant dans une librairie, la librairie des voyageurs, et il y a quelqu'un qui me dit bah, « Moi, j'ai quelque chose ». Et il m'a sorti un bouquin qui a été écrit en 2021, mais qui raconte une histoire de 1954. Et la personne qui a écrit le bouquin, c'est quelqu'un qui voyageait en Iran, qui a rencontré par hasard un musée où il voit une deux chevaux camionnette avec une matchless devant. Et ce musée s'est ouvert à Téhéran à peu près en 2004, je crois. Et ça racontait l'histoire de deux frères iraniens qui sont partis en 1954 en moto, en matchless, avec l'idée de rencontrer les peuples premiers. Mais ce n'étaient pas des ethnologues, ils ont une démarche originale là-dessus. Ils ont même certains films qui sont à peu près les premiers films qui ont été faits sur certains peuples. Et ils sont partis comme ça à l'aventure. À la rencontre des peuples premiers, ils ont fait le tour du monde. Ils ont pris 10 ans pour faire le tour du monde. Ils ont vécu avec certaines populations des peuples premiers. Et ils sont revenus après, au fur et à mesure. Il fallait qu'ils trouvent du boulot et qu'ils trouvent de quoi subsister aussi au cours du voyage. Et ils ont accumulé un tas d'objets, d'expériences, ils ont fait un tas de films, un tas de photos. Ils ont fini par faire des conférences. Et de conférence en conférence, en étant invité par des acteurs d'université, avec l'appui de leur ambassade à l'époque, ils ont pu rencontrer aussi les grands de ce monde, mais d'une manière très, je veux dire, très audacieuse, quoi, et très, très simple. Et ça, ce bouquin, ça donne un élan de fraîcheur incroyable, mais ça parle aussi de l'histoire et vraiment de la transformation du monde à peu près dans les années 50-60 aussi avec les décolonisations. Mais ça parle aussi à travers les yeux de personnes qui ne sont pas des Occidentaux, qui sont des Iraniens avec une autre culture, avec une autre religion. Et on les voit aussi autrement. Enfin, moi, je les ai connus un petit peu, ces gens-là, parce que j'ai voyagé dans ces pays-là, j'ai travaillé dans ces pays-là. Je sais que c'est des gens, c'est multiculturel, l'Iran. Mais là, on ressent vraiment l'essence de ces personnes-là, quoi. Leur ouverture d'esprit et le fait qu'ils aillent aussi, eux aussi, au-devant des autres, quoi. Donc, c'est un bouquin qui fait 300 pages passées, avec un tas de documentation. Et c'est un livre qui est tiré de... Le livre a été publié en anglais au départ par un des deux frères qui tenait son journal de bord. Et il a été publié en anglais, il n'avait jamais été publié en français. Et le Jean-Louis Osvat, qui est un fan de l'Iran et qui voyage beaucoup aussi, a fini par rencontrer ces gens-là et a dit ben, « je vais traduire le bouquin ». Et il a la chance de rencontrer les deux frères, donc Issa et Abdullah Omidvar. Alors Omid, ça veut dire espoir en persan. Et au moment, en 2022, ils avaient donc... Abdullah est décédé en 2022. Issa était encore vivant. Il avait 93 ans. Et donc, il a pu accéder à tous les documents, à toutes les... même à la vie de ses deux frères. Il les a rencontrés. Il a pu vraiment publier. Donc c'est un très beau livre, ça donne vraiment des témoignages sur la façon dont le monde était à l'époque et dont on pouvait voyager à l'époque. Donc ça commence aussi, je voudrais parler un petit peu des gens qui sont partis, enfin, c'est vraiment un bouquin, j'ai pas envie de le galvauder, quoi. Donc comment ça fait que ces deux jeunes gens sont partis à peu près à 20 ans comme ça? Et en fin de compte, on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard. C'est quand même un petit peu culturel et familial. Leur père était quelqu'un qui était directeur d'usine, qui voyageait beaucoup, qui voyageait en Afghanistan, au Pakistan, pour vendre aussi ce qu'ils avaient à faire. Et qui avait, il ne faut pas oublier, à l'époque, l'Iran était indépendant, mais un peu sous tutelle américaine, quoi, un petit peu. Il y avait eu un coup d'État 2 ans avant, des choses comme ça, c'était un peu... encore un peu instable, c'était pas l'OTAN, vraiment, le chat était installé, mais pas vraiment, quoi. Donc ça, c'était les Américains qui avaient installé un peu tout ça. Alors au début, on peut penser qu'ils sont partis un peu parce que, bon, il y avait leur idée d'indépendance et ces choses-là. Et le père, il avait beaucoup voyagé, et tout petit déjà, il avait raconté à ses enfants, c'est une anecdote de Abdullah. Quand Abdullah avait 5 ans, il lisait le journal, et puis il voit son père qui est contrarié, et puis il dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Bah, il dit, je lis quelque chose, là, il dit, tu vois, les Tibétains ont trouvé leur nouveau dieu. Alors le petit dit, ben, non, c'est pas possible, quoi, il y a un petit musulman, quoi, chiite, quoi, il y a un seul dieu, c'est Allah et tout. Alors le père les laisse un petit peu dans leur jus, et puis il leur dit, ben non, il y a des gens qui sont différents, ils sont très différents, ils ont des dieux différents, des façons de vivre différentes, et ça excitait la curiosité des enfants. La mère, elle les emmenait à travers l'Iran, un petit peu. Et en Iran, il y a énormément de peuples différents qui parlent des langues différentes, qui ont des écritures différentes aussi, et des anciennes tribus aussi, hein, donc comme les Bakhtiari, des gens comme ça, mais qui remontent très loin, qui remontent au temps d'Alexandre le Grand. C'est aussi une terre de rencontre. Faut savoir que les Grecs ont été jusque-là, enfin les Macédoniens du moins ont été jusque-là. Et on trouve au musée de Téhéran cette rencontre entre la culture grecque et la culture chinoise avec la route de la soie, quoi. C'est assez impressionnant. Et donc... ça leur ouvre un petit peu l'esprit, quoi. Et puis, à un moment, bon, ils travaillent aux entreprises de chemin de fer. Ils ont envie de partir. Donc, ils disent, on s'en va. Mais ils sont formés. Ils font de l'alpinisme. Ils font de la spéléologie. En faisant de la spéléologie, ils trouvent des objets, des choses comme ça qui font remonter au musée de Téhéran. Ils sont intéressés aux différents peuples. Ils sont intéressés pour partir en voyage, et ils s'entraînent pendant 3 ans. Ils partent en vélo, ils vont jusqu'en Syrie en vélo. Certains, l'autre va faire le tour de l'Iran en vélo aussi. Et ils se forment pendant 3 ans. Leur père leur dit, ok, vous partez, mais vous préparez votre voyage, quoi. Donc ils apprennent certaines langues, certains rudiments. Ils prennent des contacts. Et puis ils décident de partir en moto. Et pourquoi la moto? Ben parce que c'est, comme on l'a dit avant, c'est accessible, c'est pas trop cher, quoi. On peut rouler à peu près. Pourquoi la matchless? Parce que c'était assez rustique. Enfin, on en a parlé aussi un peu. Et moi, quand je me suis renseigné sur cette moto-là, j'ai vu, ok, elle pouvait rouler à très bas régime, et donc ça pouvait permettre une autonomie qui était très très grande. En même temps, elle supportait les essences de mauvaise qualité qu'on pouvait trouver donc après-guerre. Donc c'est-à-dire que bon, bah, qui roule en 1950 au Pakistan et puis dans des pays comme ça, en Indonésie, avec de l'essence qu'ils trouvaient, quoi. Et donc ça leur permet de faire. Et avant de partir aussi, au moment où ils achètent les motos, il y a Issa qui apprend la mécanique. Il va modifier un peu les motos, les consolider un petit peu. Il faut voir sur les photos, hein, les porte-bagages, les sacoches, c'est pas du Touratech, hein, c'est des trucs faits en bois, hein, carrément vissés dessus. Il apprend la mécanique, il va se former en travaillant dans un atelier de mécanique pendant 6 mois à Téhéran pour vraiment savoir faire la mécanique de ses motos. Et puis ils vont partir comme ça. Donc je vais vous lire un extrait, c'est le tout début du livre. Hein, il dit... ils se donnent rendez-vous à un lieu mythique pour eux, qui est un ancien caravansérail en miettes sur la route de la Soie. Et il dit, chacun fait l'effort de venir au grand caravansérail en miettes sur la route de Semna. J'ai toujours aimé cet endroit, une porte vers l'aventure. Et il dit, on se regarde avec mon frère, le premier qui va démarrer. Et il dit, et enfin le frombissement de ma 500 cm3 rompt le silence, cliquetis. des pièces métalliques frottées, je me concentre sur le ronron guillé du moteur jusqu'à l'apaisement. Mon rythme cardiaque ralentit comme en suspension. À côté de moi, Abdullah a remis les gaz. Et donc ils s'en vont. Et ils s'en vont comme ça à l'aventure. Et ils sont à peine partis de quelques centaines de kilomètres. Il lui arrive deux choses. Et ils croisent un camion qui leur dit il ne faut pas aller plus loin, c'est inondé et tout. Il me dit on est parti pour faire le tour du monde. Donc c'est tout, on continue. Et il casse sa fourche encore un peu plus loin. Ok, on va chercher les pièces, je ressoude, et puis on repart. Et ils seront partis comme ça pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, ils vont faire aussi la rencontre des peuples premiers. Ils vont vivre avec eux, mais vraiment vivre avec eux, comme Paul-Émile Victor a pu le faire un petit peu avant. Donc ils vont vivre avec les aborigènes. Ils vont vivre avec les Esquimaux. Ils vont aller à la rencontre des tribus amazoniennes, au risque de leur vie aussi, parce qu'à des moments, il faudra s'échapper un peu plus loin. Et puis, ils vont retourner par l'Europe. Ils seront subventionnés par Citroën, qui va leur donner qui va leur permettre d'avoir une 2 chevaux Citroën. Et ils vont faire une deuxième partie du voyage à travers toute l'Afrique, mais en pleine décolonisation, quoi. Voilà. Donc, au moment où ils partent, c'est assez marrant, c'est de voir l'ouverture d'esprit. Parce qu'ils rencontrent des gens très célèbres, comme Nehru en Inde. Et il y a des rencontres qui se font de manière assez simple. Ils rencontrent quelqu'un parce que, ils arrivent au Pakistan. Il y a le recteur de l'université, il est en vélo à côté d'eux. Il s'arrête, il voit deux gars en moto, il demande d'où ils viennent. Il est marqué sur leur moto qu'ils viennent d'Iran, quoi. Donc ils commencent à leur parler. Et puis il leur dit venez chez moi et je vais vous présenter les autres personnes. Ils s'appuient aussi sur leurs ambassades. Ils ont un culot monstrueux, quoi. Et quand ils rencontrent Nehru, ils commencent à parler de Nehru. Ils sont partis avec un livre de poésie persane dans la poche. Et Nehru leur montre la poésie. Et Nehru leur répond en récitant la poésie en persan. Et il leur dit, les meilleurs ambassadeurs de votre pays, de ce que vous êtes, c'est vous-même, quand vous irez à la rencontre des gens. Donc ils vont rencontrer Indira Gandhi aussi, qui est assez jeune encore à l'époque. Et de là, en fil en aiguille, ils ne vont pas hésiter à aller au-devant des gens. Et ils ont un culot monstrueux. Hein, en Colombie, le président colombien leur filera un avion pour aller dans les tribus, dans l'Amazonie, où ils vont partir en Amazonie avec des guides et avec des gens qui vont leur dire surtout partez pas, c'est dangereux. Un jeune Allemand a disparu il n'y a pas encore trop longtemps. Il y a des gens quand même qui sont attaqués. Il y a des Jivaros qui sont réducteurs de tête. Et eux vont vivre avec des tribus amazoniennes et vont partager leurs expériences aussi. Mais comme un être. Ils introduisent des méthodes très respectueuses. Ils ont vraiment l'approche, ils échangent des choses avec les gens, ils approchent un petit peu comme on a pu le voir ensuite. C'était un peu, mais ils sont assez novateurs là-dedans. Ils approchent les gens, ils se font accepter. Donc on en parle un petit peu après, le commencement du voyage. Voilà.
Ok. Il y a du rock and roll là, sur Radio Campus Kikinkou et on est toujours avec Yves et donc il nous parle du... Alors le livre c'est Le Voyage des Frères Amidvar, c'est ça?
Exactement, oui. Donc ça a été publié aux éditions Elitis. Donc Elitis c'est aussi Nevikata et par Jean-Louis Osvat, c'est le, celui qui réécrit le, donc qui a traduit toutes le journal de Issa Amidvar. Et c'est un livre qui fait à peu près 363 pages. Exactement, oui, je dis à peu près, non, c'est exact. Et donc, il y a plein de photos, parce que ce sont des gens qui ont fait des photos, qui ont fait des films, et qui se sont professionnalisés un petit peu au fur et à mesure de leur voyage, parce que c'était aussi devenu un petit peu leur moyen d'existence. Et on peut retrouver donc pas mal de films sur YouTube aussi, des petits films. Voilà, donc on peut retrouver des petits films et ça montre un petit peu. Bah, y a des photos, on trouve plus quoi. C'est tout. On voit les motos en état quoi, un petit peu. Hein. Donc là.
C'est pas très radiophonique, hein. Il faudrait.
Ouais, non, c'est pas très radiophonique.
Mais par contre,
il existe des podcasts où on peut retrouver exactement le voyage où l'auteur va raconter dont une émission qui est passée sur la radio belge.
Mais il n'y a pas les autocollants sur le pare-brise comme Alain. Alain, il y a les autocollants, lui, sur le pare-brise.
Alors, ils n'ont pas les autocollants sur le pare-brise, ils ont ramené quand même des objets un petit peu partout.
Le pare-brise à Alain, je le prends tous les semaines en photo. C'est vrai, ah, c'est vrai, Alain. Je dois avoir 100 photos de son pare-brise.
Ouais, je suis un petit bonhomme. Hein.
J'adore. Ah,
ouais. Quand tu vois Kiki, il y a plus cher d'autocollants que de bécanes sur ces trucs.
Il y en a plein sur son sidecar. Hein, sa moto, sur son sidecar, sur le pare-brise.
Ça permet de tenir les morceaux qui s'en vont. Ouais.
Mais c'est un peu ça. Et en plus, il dort dedans. Hein. Il dort dans son sidecar.
Bah, je crois que tu vois pour eux, il n'y avait pas d'autocollants. Quoi. Ça n'existait pas, les autocollants. Ça n'existait pas à l'époque. Et puis quand ils allaient quelque part, quand ils vont démarrer, ils se retrouvent à passer les frontières pakistanaises et les choses comme ça. Et on leur dit, bon, bah, déjà, on les voit débarquer, on voit deux gars à moto. C'est pas courant de voir des gars à moto qui arrivent. En plus, bon, bah, à l'époque, il n'y avait même pas... Bon, comme tu l'as dit, hein, mais le premier tour du monde, 1926, mais juste après-guerre, bon, il y en a eu d'autres après, entre-temps, mais c'est quand même pas très courant.
Les aventuriers d'aujourd'hui, de hier, n'ont rien à voir avec les aventuriers d'aujourd'hui.
Et il n'y avait pas la route de Katmandou, quoi.
Et puis, il n'y avait pas les drones et les Facebook et tout ça.
Exactement.
Il n'y avait que les livres et pouvoir raconter ces aventures. Ce qui devait être bien aussi, parce que c'est quand même passionnant de raconter ces aventures.
Alors eux, c'était pas tellement leurs aventures, bien qu'ils se mettent quand même en scène un petit peu, mais c'est la curiosité des autres, quoi. C'est la curiosité de découvrir les peuples premiers. Et ils ont déjà la conscience que le monde est en train de changer et que ça risque de disparaître. Donc ils veulent ramener aussi ça chez eux, quoi, en Iran. Donc ils ont... En fin de compte, ils ont collecté des tas d'informations, des tas de données, ils ont fait des tas de présentations. C'est ce qui a permis de retracer tout ça. Mais ils avaient déjà dans l'idée, quand il écrit ses notes, d'ouvrir un musée, d'ouvrir quelque chose. Et le musée sera ouvert à peu près en 2000-2004, alors qu'ils sont partis en 1954 jusqu'en 1966, je crois. Donc ça a été ouvert en 2004. Entre-temps, il y a eu quand même... Bon, en Iran, ça a bougé quand même un petit peu.
Révolution.
Il y a une petite révolution. Mais en 2000-2004, ça s'ouvrait un peu l'Iran. Hein. Bon, moi, j'ai bossé là-bas à peu près... C'est 2004, c'est quand j'ai commencé à y aller. Et les gens avaient une envie... Il y avait une diaspora à l'extérieur de l'Iran. Beaucoup de gens étaient partis, quoi. Ils étaient obligés de partir et vivaient à l'extérieur. Mais il y avait beaucoup d'échanges. Aussi avec les Iraniens. Et donc, ils ont rouvert en 2004, donc c'est vraiment après. Mais ils avaient vraiment cette envie d'aller au-devant du monde. Et la moto, c'était... Bon, les petites routes, il n'y a pas de route, quoi. C'est de la piste ou des choses comme ça. Et même les voitures, ça passe pas... Bon, il y a des camions, hein. Tout de suite, c'est après-guerre, donc il y a du matériel, il y a des camions qui se sont faits. Il y a des routes qui se sont ouvertes, même pendant la guerre, quoi. Quand on prend le pont de la rivière Kouaï, c'est l'histoire d'une route qui est créée quand même pour traverser, qui est tactique. Donc ils s'en vont comme ça. Ils arrivent jusqu'en Inde, et en Inde sont aussi des alpinistes. Donc ils décident d'aller au Tibet, et ils voient le Tibet avant que la Chine annexe le Tibet quand même. Ils tombent sur quelque chose d'assez extraordinaire. Au moment où ils vont en Tibet, ils vont pour grimper, pour faire des sommets. Donc ils vont partir faire des sommets. Et quand on les voit, l'équipement qu'ils ont, et quand ils vont faire un sommet à plus de 5000, tous les deux, que leur guide les laisse un moment et disent bah, « Nous, on continue, on va aller jusqu'au bout. » Et on voit la photo où il y a la petite doudoune, la petite canadienne, pour aller à 5000 mètres dans l'Everest. On se dit, les gars, je sais pas. Le gars, il a son béret, son piolet, mais comme le papy, quoi, tu vois. Et on dit, on sait pas comment ils font. Ils arrivent sur le Tibet. Ils rencontrent donc les Tibétains là-bas. Et la civilisation là-bas, elle est complètement différente. Donc il faut savoir que c'était le matriarcat là-bas. Et les femmes avaient même plusieurs... Marie. Ben voilà, c'est les femmes ont plusieurs maris, et il faut voir avec leur. Eux, ils viennent quand même d'Iran, quoi. Tu vois. Et ils assistent à certaines cérémonies où ils disent bon, ben voilà, on boit le thé, on s'accroche le thé au beurre de yak, c'est quand même assez. C'est chaud, mais c'est quand même assez amer. Et ils rencontrent, ils croisent le regard du Dalai Lama à l'époque. Et donc l'histoire est bouclée un petit peu avec l'histoire de quand ils étaient petits, où leur père leur racontait comment le Dalai Lama avait été nommé. Ils vont rencontrer le Dalai Lama et Abdullah Omidvar, qui lui, après tout ce périple, va partir vivre au Chili, va toujours être en contact avec le Dalai Lama aussi pour faire des conférences un petit peu sur le Tibet, les choses comme ça. Et donc c'est quelque chose qui va continuer. Donc c'est comme... Tu vois, l'histoire que tu rencontres les gens sur la route, mais quelque part, l'histoire continue. Après, les relations continuent entre eux. Et après ça, ils arrivent en Thaïlande. Et en Thaïlande, en faisant... ils donnent des concerts aussi de violon, de musique locale. Kuisa joue du violon iranien, hein, c'est pas comme nous. Et ils vont se retrouver avec la fille de la famille régnante, thaïlandaise, et ils vont faire tous les temples thaïlandais. Ils se retrouvent en Indonésie. En Indonésie, ils prennent le bateau pour débarquer les motos. Ils sont obligés de faire un radeau et de basculer les motos sur le radeau et de regagner la terre ferme. Avec leur radeau.
Là, on est totalement sur le radeau aussi.
Et c'est la méduse.
Le temps passe.
Et ils vont se retrouver après. Ils se retrouvent. Ils comptent le voyage continue. Et sur route indonésienne, qui c'est un peu risqué aussi. Et ils se retrouvent au Japon à faire des photos au Japon à Hiroshima. À peu près moins de 10 ans après Hiroshima. Et on voit une photo d'une japonaise en costume traditionnel avec le paysage d'Hiroshima que l'on reconnaît, vu que les bâtiments que l'on reconnaît derrière. Et c'est moins de 10 ans après.
Et là, au Japon, ils sont à peu près à quelle partie de leur voyage?
Un tiers.
150
pages.
Alors
on va pouvoir faire au moins 3 émissions.
Ah tiens, après le Japon,
enfin, c'est bon,
après le Japon vient l'Australie. Et en Australie, ils font l'acquisition d'une caméra Bolex, qui est la caméra des aventuriers.
Et si on se retrouvait avec des épisodes, Yves? Parce que là, c'est vrai que ça a l'air d'être... En tous les... Est-ce qu'on peut...
C'est monstrueux.
Voilà, c'est ça. C'est le terme. Et on peut inviter déjà les curieux de lecture à trouver ce beau livre.
Moi, j'ai bien envie. Je vais essayer d'inviter Guy Bernard Ego, qui nous a écrit...
Pour une prochaine émission.
Pour une prochaine émission, qui va sortir son deuxième opus, où notamment il va parler des Kikinkou et de sa rencontre avec Yannis aussi, qui a été en Iran et qui a été un peu partout avec ses motos. Et là, qui s'arrête de rouler, donc je trouve que c'était un peu émouvant aussi d'aller le voir aussi.
Moi, ce que je retiens de ton récit, qui est extrêmement riche, hein, ça donne vraiment envie d'aller y jeter un coup d'œil et de le lire dans le détail, c'est qu'à un moment donné, là, tu dis ils sont en Inde, ils sont à moto, il y a le recteur de l'académie de Jésus qui s'arrête. Et voilà, moi, je pense que l'essence même du voyage à moto, une des essences même, c'est que ça facilite le contact, bien plus que quand on est dans une bagnole. Quand on est dans une voiture, on est enfermé, les gens ne viennent pas buquer à la fenêtre de la bagnole. Et à moto, ça arrive tellement souvent.
C'est aussi l'époque, c'est inconcevable maintenant. Ils pourront voyager longtemps parce qu'ils sont toujours accueillis et l'hospitalité est reine. Enfin, quand ils ne payent jamais, ils sont toujours invités quoi, à raconter leur histoire et invités. Voilà.
Et donc, nous, on va faire un petit tour de table pour justement recentrer après cet univers qui nous est ouvert avec les voyages des frères Mozart, de reparler un peu de quel concentre alors Alain, en perspective pour leur...
Les miennes ou celles de Hauts-de-France?
Ah, les tiennes.
Ah non, les tiennes. Ah, tu boutes pas celles de Hauts-de-France? Si, un petit peu.
il faut bien que je les boude un petit peu parce que je suis ailleurs.
Et alors, tu vas partir sur quelle route?
Donc là, je suis le week-end prochain sur Montargis. Le week-end d'après, je suis en Charente-Maritime. Sur le plateau de Langres.
Eh bien, ça va.
En fait, j'ai encore 5 concentres
avant
les Samaras, d'ici à la fin de l'année.
Dans l'Hexagone.
Dont une concentre le 31 décembre et le 1er janvier dans l'Ain.
D'accord. Et il y en a une qui te fait très envie, c'est celle qui est au Portugal.
Oui, mais celle-là, c'est pas...
Ça serait plus de kilomètres. Et c'est en été.
En été. C'est...
Faro.
Voilà.
Et il me semble, Alain, que tu vas participer au Marmotte, qui est tout simplement la concentration la plus haute du monde, hein. À 2040 mètres d'altitude.
La plus haute d'Europe, en tout cas.
Il me semble que c'est la plus haute. Il me semble que le concept de concentration hivernale n'existe qu'en Europe. Donc ce serait pour moi la plus haute d'Europe. La plus haute du monde.
En fait, on pourrait encore en parler longtemps de tout ça. On n'a pas eu trop de temps.
Non, ça passait trop vite. Ouais,
il n'y a pas des concentrations en Amérique du Sud, un petit peu. En tout cas, pas d'hivernal.
L'hivernal, c'est vraiment un concept très, très européen. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. J'en ai pas trouvé ailleurs. Quoi. Et j'ai même été contacté, parce que j'avais fait une communication dans un colloque sur le tourisme à moto en Europe et les concentrations hivernales. Et il y avait un Brésilien qui était là, il me dit « Écoute, c'est extraordinaire votre machin. Moi, je suis directeur d'une revue de géographie au Brésil. Si tu veux, je te traduis ton truc. Tu me réécris ça. Bon, tu me mets en forme pour faire un article. » Je traduis en portugais et c'était publié au Brésil. Et ça, j'ai pas encore été invité au Brésil pour faire un colloque, mais si m'invite, j'y vais, hein, bien sûr.
Mais justement,
en tout cas, ça les a beaucoup étonnés.
Yanis, on peut retrouver tes articles? Ils sont accessibles facilement?
Écoute, mes articles sont... Oui, c'était publié dans des revues universitaires. Je vous donnerai les coordonnées. Oui,
c'est sympa.
Dans particulier, ça avait même fait l'objet de quelques chapitres d'ouvrages. Ouais. Là, j'ai... Voilà.
Si vous cherchez des dates de concentre, notamment d'hivernale, vous avez le calendrier Kikankou qui est en préparation. Donc, il y a encore celui de 2025 hein, qui court jusqu'à la fin du mois de décembre. Et on est en train de préparer le calendrier 2026. Donc, chers auditeurs, si vous voulez communiquer vos infos dans le calendrier, c'est gratuit. Il suffit d'aller sur le site Kikankou, K1C, hein, tout simplement. Et vous avez un formulaire que je vous invite à remplir et nous publierons les informations gratuitement.
Oui, et comme ça, on aura celle pour le Téléthon et les défilés des Pères Noël. On aura toutes les dates pour 2026. On pourra les relayer facilement parce que là, on devait en citer un certain nombre. Mais
il y en a pas mal. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais, vous le voyez sur les réseaux sociaux.
N'hésitez pas à envoyer sur la page Facebook. Ouais, ouais.
Le Téléthon, c'est fin novembre, début décembre. Non, début décembre cette année. Parce que ça change en fait suivant les années. Ouais. J'entends le générique. Papa, on a bien voyagé aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire merci, Nicolas.
Il n'y a pas de souci. Moi, je n'écris pas d'articles, mais je suis toujours émerveillé par, par le pare-brise d'Alain. C'est mon trip, le pare-brise
t'es
d'Alain.
Jaloux, c'est jaloux.
Merci Alain pour ton pare-brise.
On va mettre une photo, Nico.
C'est du tout simple. C'est le pare-brise d'Alain, c'est mon livre de chevet.
Merci, merci Yves pour ce bouquin vachement intéressant. Tu reviendras nous en parler. Merci pour ton témoignage aussi, Yanis.
Merci Luc.
Et merci pour cette émission super sympa, Babat. Franchement. Et on va bien sûr remercier notre technicien hors pair, Laurent. Allez, on se retrouve dimanche prochain.